Dans cette CGT d'avant 14, j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est avec Thierry qu'on s'était entendu là-dessus, le combat pacifiste des instituteurs syndicalistes de cette période-là. Alors ces instituteurs, pour les situer rapidement, ils ne sont pas représentatifs de leur profession en totalité. Ils sont au nombre à peu près de 3500 adhérents. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les instituteurs se regroupent surtout dans des amicales qui sont surtout des lieux contrôlés par l'éducation, par l'instruction publique à l'époque, où les instituteurs se réunissent, ils parlent beaucoup de pédagogie, on y parle de la République, c'est une forme de cercle un petit peu comme ça, républicain, mais c'est étroitement contrôlé par les inspecteurs, par le directeur d'école qui chapeaute un petit peu ses adjoints. Les instituteurs que j'évoque moi, non, eux, ils ont en tête de créer des syndicats, syndicats qui sont interdits. La République ne reconnaît pas aux fonctionnaires, il faudra attendre 1924, le cartel des gauches, pour que les syndicats enseignants soient pleinement reconnus. Je vais juste vous lire d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils rejoignent le syndicalisme ouvrier. Et je vais évoquer à ce moment-là la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs, qui va donner par la suite, qui va dominer le syndicalisme enseignant. Quand ils se créent en 1905, ils écrivent ceci. Par leurs origines, par la simplicité de leur vie, les instituteurs appartiennent au peuple. Ils lui appartiennent aussi parce que c'est aux fils du peuple qu'ils sont chargés d'enseigner. Nous instruisons les enfants du peuple le jour. Quoi de plus naturel que nous songions à nous retrouver avec les hommes du peuple le soir? C'est au milieu des syndicats ouvriers que nous prendrons connaissance des besoins intellectuels et moraux du peuple. C'est à leur contact et avec leur collaboration que nous établirons nos programmes et nos méthodes. Et il conclut, c'est un extrait, « Nous voulons entrer dans les bourses du travail pour y prendre de belles leçons de vertu corporative et y donner l'exemple de notre conscience professionnelle. » Donc on voit bien là qu'ils ont le désir à la fois de représenter les questions de leur profession, questions corporatives aussi. Je n'ai pas le temps de développer, mais ils vont travailler sur la façon dont la République enseigne l'histoire aux enfants, par exemple, contre le chauvinisme. Mais ils ont la volonté d'entrer pleinement dans le syndicalisme. Pour définir aussi, pour dire deux mots avant d'aborder les questions du pacifisme sur cette fédération, il faut voir qu'à cette époque-là, elle est sur les 3500 militants, il y a près d'un tiers qui sont des militantes, qui sont donc des institutrices, à une époque où même le mouvement ouvrier que vous évoquiez tous les deux, c'est peut-être un peu différent chez les anarchistes, était surtout un mouvement de type masculin, incarné par des hommes. Là, les femmes vont jouer un rôle. Je cite trois personnalités qui vont marquer l'histoire ouvrière dans les années qui suivent. Marie Guillot, Marie Mayou et son mari François, on en dira deux mots, et Hélène Brion, qui en 1914, quand les instituteurs, comme d'autres, sont appelés au front, va devenir co-secrétaire de la Fédération nationale des syndicats des instituteurs avec Fernand Loriot. Et enfin, ce qui caractérise, pour aller vite, cette fédération, c'est qu'elle est très décentralisée, à une époque où le mouvement ouvrier a tendance, alors en dehors des libertaires, d'être de type jacobin, tu parlais des guédistes et tout, là, il y a un grand poids important donné au département, donné à la province. Et c'est ainsi qu'à Marseille, on a pu célébrer ça en 2010, va être créée l'École émancipée, qui à l'origine est une revue pédagogique. Ça va devenir la revue d'une tendance après du syndicalisme enseignant. À ce moment-là, c'est la revue de la fédération. Elle veut mettre le paquet sur les questions de pédagogie, une pédagogie émancipatrice, comme elle le dit, et sur les questions sociales. Et en 1914, ces militants-là, qui auparavant se sont aussi ont mis en place ce qu'on appelait le sou du soldat. Le sou du soldat, c'est ce que dans la CGT, les syndicats avaient mis en place pour venir en aide à leurs adhérents qui étaient mobilisés en envoyant un petit pécule. C'était très mal vu de l'État et du gouvernement, cette affaire-là, pour des questions d'ailleurs, parce qu'il y avait des questions de propagande derrière, souvent antimilitaristes. Et donc la Fédération des instituteurs va être plusieurs fois combattue là-dessus. Donc quand arrive 1914, cette fédération et son journal va faire dire très vite à une grande figure du mouvement syndicaliste révolutionnaire, Pierre Monnat, qu'il s'agit là du seul organe de la presse française qui n'ait rien voulu abandonner de l'idéal socialiste et révolutionnaire. faut savoir que dès 1914, je vais vite, mais ça doit être clair pour beaucoup d'entre vous, le mouvement ouvrier va se rallier massivement, majoritairement, à l'Union sacrée. Hein, l'expression est de Raymond Poincaré. Union sacrée qui veut que tous les partis, y compris les partis d'opposition, les syndicats, la CGT, les partis ouvriers, le Parti socialiste, doivent participer à la défense nationale. Ce qui va être décidé majoritairement, mais il va y avoir des minorités, et dans ces minorités syndicales, la Fédération des syndicats d'instituteurs va prendre une place notoire. À Marseille, puisqu'on est à Marseille ici, il faut donner peut-être deux noms, hein, Ismaël Audoy et Pierre Lafosse, qui sont les deux dirigeants de la Fédération. Ils dirigent le journal L'École émancipée, et ils ont affaire très vite à la censure marseillaise qui est très féroce. Pour donner un exemple, ils veulent faire paraître dans L'École émancipée un article d'une pédagogue qui cite un article de Pestalozzi, un pédagogue. Cet article est écrit en allemand. Et bien la censure, parce qu'il s'agit de langue allemande, censure l'article et L'École émancipée paraît avec un blanc. Pareil, ils font appel à la poésie, à des poèmes de Victor Hugo d'ordre pacifiste. Là, pareil, la censure s'exécute. Si bien qu'en septembre 1914, L'École émancipée va être suspendue. Les Marseillais vont louvoyer, vont dire bon, on se rabat un petit peu sur les questions pédagogiques. Ils vont donc débaptiser leur revue. Elle va s'appeler L'École. Le titre est déjà pris par un organe catholique, ça ne s'émante pas, et elle va devenir L'École de la Fédération. Et c'est cette revue-là qui va, tout au long de la guerre, avec des nuances, parce qu'il va y avoir des débats à l'intérieur du journal, va faire paraître un discours, tant qu'elle peut le faire, un discours pacifiste et révolutionnaire. Alors, sur cette question du pacifisme, il faut voir que ces institutrices, je les mettrai toujours devant, et les instituteurs, vont aller contre l'opinion, ce qui était courageux dans cette période-là. Ils vont d'abord s'opposer aux paroles de haine. Il faut voir que toute la presse de l'époque, quand on la relit, c'est de l'anti-Bosch, anti-allemand, même contre la culture allemande, c'est ce qui prédomine dans la presse française. L'École émancipée va à l'encontre de cette pente-là. Elle s'oppose aussi à la question des responsabilités de guerre, qui divise d'ailleurs le mouvement ouvrier. Dans ceux qui rejoignent L'École émancipée, y compris chez les anarchistes avec l'appel de 1916, hein, avec Kropotkin et Jean Grave, beaucoup pensent que le responsable, c'est l'Allemagne impérialiste, hein, qui a été l'agresseur et qu'il faut défendre la patrie agressée. C'est un débat qui va partager l'ensemble des organisations syndicales et ouvrières. Eh bien, L'École émancipée s'oppose à ça, en montrant qu'il y a une responsabilité des impérialismes. Hein, c'est l'analyse marxiste type. Et enfin, il s'oppose à la légende de la guerre du droit, de la guerre civilisatrice. Elle était justifiée comme ça, cette guerre. Hein. Nous sommes le droit, nous sommes la civilisation, et nous nous opposons à la barbarie allemande. Et c'est là Marie Guillot, par exemple, qui peut écrire sous le manteau « Cette guerre ne peut être que le retour à la brutalité ancestrale ». Elle avait une vision d'avant-garde. Et enfin, ces instituteurs, dans leur classe, parce que là aussi, les programmes mettaient en avant un enseignement de type militaire, vont refuser de prodiguer à leurs élèves, aux enfants, l'enseignement de la haine du peuple allemand. Voilà, donc il y a ces questions-là. Et à l'intérieur de la Fédération, les pacifistes ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. J'évoquais tout à l'heure Marie Mailloux. L'autre grande figure, c'est son mari, François Mailloux. François Mailloux est pacifiste, mais il essaie de concilier le pacifisme et le patriotisme. Hein, il essaie de pas être... Ça ne va pas être un pacifiste révolutionnaire ultra, comme vont l'être, par exemple, Fernand Loriot ou Bouet, dont on parlait avec un ami tout à l'heure. Les Bouet, d'ailleurs, hein, le mari et la femme. D'ailleurs, Bouet, quand il parle de Mailloux, il dit « Oh là là, il est pacifiste, mais il défend un pacifisme trop patriotard. » C'est l'expression qu'il emploie. Et enfin, pour rester un petit peu autour du journal, L'École émancipée, il va y avoir une affaire à l'époque qui va prendre du temps, de la parole et des grands débats dans la Fédération, c'est la censure. Parce que L'École émancipée, dès qu'elle fait paraître un article en faveur de la paix, tout de suite, ces articles sont censurés. Hein, la police vient, y compris ici à Marseille, saisir 2500, 3000 exemplaires de la revue. Par contre, elle laisse passer des articles de certains instituteurs syndicalistes qui défendent le sentiment national, qui défendent la patrie. Hein. Et là, il y a un débat, et Lafosse, à Marseille, il dit « Ah non, moi je ne fais rien passer, les camarades qui m'envoient des articles défendant l'Union sacrée, je les censure. Mayou va avoir la position inverse, il va dire non, non, notre revue, on n'a pas à faire une censure nous-mêmes, comme le fait le gouvernement, il faut qu'on fasse passer tous les articles, quels qu'ils soient. Ce débat va être tranché par la fédération, donnant raison à Boué et à La Fosse, montrant qu'il y a suffisamment de presse nationaliste, patriotique, appelons-la comme on veut, pour que l'école émancipée reste sur une ligne pacifiste et en faveur de la paix, sans annexion, comme il est dit dans le journal. Et avant d'aborder aussi un autre aspect qui va être important dans cette période-là, c'est-à-dire la répression, il faut voir que ces militants-là, alors j'ai oublié de le dire, ils sont pas libertaires, ils sont pas dans les organisations anarchistes, mais ils sont proches de... Par leur parcours, d'abord, ils sont souvent passés par des organisations de type anarchiste, ils ont fréquenté les bourses du travail dont tu parlais, ils fréquentent des libertaires dans la CGT, hein, à travers le syndicalisme révolutionnaire qu'ils incarnent eux aussi, et tout dans leur production montre que les thématiques qu'ils défendent sont très proches des libertaires de l'époque. Donc avant que cette répression se fasse jour, il va y avoir, d'abord dans les Bouches-du-Rhône, c'est grâce à la Fédération des syndicats d'instituteurs que l'UD des Bouches-du-Rhône et la Bourse du Travail va basculer de la majorité qui était Union Sacrée à une majorité qui devient pacifiste révolutionnaire. Ça va être une des rares unions départementales CGT dans le pays à avoir cette couleur-là à partir de 1916-1917 en défense du pacifisme et de la révolution. Ensuite, ces militants-là vont rejoindre assez vite le comité pour la reprise des relations internationales. C'est un comité qui regroupe des syndicalistes et des socialistes, sans doute des anarchistes aussi, minoritaires pour l'instant, le mouvement va s'inverser petit à petit, qui défendent une issue à la guerre, qui défendent des positions en faveur de la paix, et qui vont d'ailleurs petit à petit se développer après sur la défense de la révolution bolchevique, au moins en ses débuts. Et au fond, ils incarnent ce que Christophe Rochasson, l'historien, appelle une culture pacifique de guerre, qui durera dans le syndicalisme enseignant. C'est-à-dire que dans tout le syndicalisme, mais là c'est une autre histoire qui commence dans les années 30, le pacifisme, dans le SNI par exemple, dans ce qui va devenir le syndicat national des instituteurs, c'est quelque chose qui va être très fort. Alors, un petit mot sur la répression, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, il va y avoir, la répression va prendre trois formes. Quand on surprend les militants en train d'avoir des textes ou des prises de parole contraires à l'esprit du temps, ils reçoivent un blâme. Ensuite, la deuxième étape, s'ils persévèrent dans leurs avancées, dans leurs écrits, dans leurs interventions, c'est qu'ils sont déplacés. Ça va être le cas des Mayou. Ça va nous permettre à nous, les Mayou, de les voir arriver ici après la guerre à Cadolive, un petit village du bassin minier, et où les Mayou vont continuer à défendre des positions très syndicalistes, révolutionnaires. Et enfin, troisième et ultime forme de répression, là assez grave, c'est la révocation. Et ainsi, il va y avoir 7 militants de la fédération qui vont être révoqués. Et sur 7 militants, je le disais en commençant, il va y avoir 5 militantes. Alors, je ne résiste pas au plaisir, avec ma voisine, de les nommer, ces militantes, pour penser un petit peu à elle, un siècle après. Il s'agit de Julia Bertrand, ça va être la première, elle, dès 1914-1915, elle écrit des textes très, très, très forts sur le pacifisme. Elle va être évoquée. Marie Mayou, Hélène Brion, qui au départ est pourtant favorable à l'Union Sacrée, mais en écoutant ses camarades, elle va évoluer et rejoindre un petit peu leur position. Lucie Colliard et Marie Guillot, qui est une autre grande figure de ce syndicalisme-là. Alors, pour conclure, j'avais commencé un petit peu en évoquant Pierre Monat. On pourrait relire là quelques lignes de ce qu'il écrivit après la guerre, dans un livre où il relate son expérience de syndicaliste révolutionnaire. Il écrit ceci. « Bien peu de fédérations et de syndicats ont résisté aussi bien que les vôtres, camarades instituteurs et institutrices. Votre école, il s'agit de la revue, l'école, et si je ne me trompe, le seul organe syndicaliste révolutionnaire qui ait su à la fois rester fidèle à son passé et paraître régulièrement durant ses mauvais jours. Vous pouvez en ressentir un légitime orgueil, puisque leur résistance, c'est la vôtre. » C'était finalement un bel hommage de Pierre Monat, fondateur de la vie ouvrière, avec d'autres, avec Alfred Rosemet. C'était un bel hommage à ces militants qui, s'ils ont été accablés dès août 1914, surpris par la guerre, alors qu'ils avaient prévu la grève générale en cas de guerre, s'ils ont été accablés, n'ont jamais été désespérés. Et je trouve que En revenant sur cette histoire, ça nous donne un petit peu, même si l'histoire se répète jamais de la même façon, des leçons pour les combats d'aujourd'hui qui prennent bien notre forme, et puis les militantismes d'aujourd'hui. Voilà, merci.